Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente « Dans la peau d'un auteur », un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui lundi 11 juin 2018 à Neuilly, dans la peau de Michel Jourdan, un parolier fou d'amour pour la musique, au point de lui consacrer toute sa vie. Bienvenue dans le murmure de sa pudeur.
Bonjour Michel.
Bonjour Sandra.
Quel est votre nom ?
Jourdan.
Jourdan. Votre prénom ?
Michel.
Est-ce que vous avez un pseudonyme ?
Absolument pas.
Est-ce que vous pouvez me dire l'intitulé exact de votre métier ?
C'est-à-dire que moi je me considère comme un parolier.
Très bien. Donc vous êtes un parolier.
Exactement.
Très bien. Est-ce que vous savez depuis quand vous êtes membre de la SACEM ?
Ça pourrait être quelque chose autour de 1953.
D'accord. Du coup, vous pouvez peut-être me dire votre nombre d'années de carrière.
Ça remonte à plus de 50 ans de carrière.
D'accord. Ah oui, quand même. Hein. Une belle carrière, ça. Quel est votre lieu de résidence ?
Paris.
Paris. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous considérez comme être votre signe particulier ?
Un parolier amoureux fou de la musique.
D'accord. Alors, puisqu'on parle d'amour, qu'est-ce que vous aimez ?
J'aime les belles rencontres.
Très bien. Qu'est-ce que vous adorez ? Plus que tout, qui vous procure.
Lorsque ces rencontres se concrétisent par une amitié vraie, reconnue, et que dans ces cas-là, en certaines occasions, on pourrait se sentir seul, et on n'en est pas, même si la personne à qui l'on tient est à distance.
Elle existe.
Voilà.
Oui, je comprends. Vous êtes attaché à rester en lien avec des gens qui comptent pour vous. Je comprends. Du coup, qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
Le show business.
D'accord. Ouais,
je crois que c'est assez...
C'est clair.
Ouais,
c'est clair. Et qu'est-ce que vous détestez ?
Je trouve pas le mot, la traîtrise, la... Aidez-moi, s'il vous plaît.
Fait de trahir quelqu'un, c'est ça ?
Ou... Être trahi, être...
La trahison ? Alors, voilà. Dans ce cas-là, c'est le sentiment de trahison ?
Oui, oui.
Ah oui, ça c'est moche, c'est vrai. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Quand on accorde sa confiance.
Et à tous les niveaux, bien sûr.
Oui. Ça peut être personnel ou dans le travail, c'est dur. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes en trois mots, au sens littéral, trois mots qui vous définissent ?
Un introverti
qui
écrit pour des artistes cultes.
Bah, j'ai de la chance, du coup, si vous êtes introverti, de discuter avec vous.
Oui.
Parce que vous vous faites un peu violence. Alors... Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire rapidement le déclic qui vous a mené à écrire pour des interprètes ? Ça a été quoi le déclic ?
Tout petit, je babillais et à l'époque, il y avait une chanson de Tino Rossi, c'était pendant la guerre, qui s'appelait Marinella. J'appelais ma maman Mamine, et je faisais Mamine, et un voisin a dit à ma maman, vous savez que ce petit, Madame Jourdan, parle de vous. Ah bon ? Oui, écoutez-le bien, il dit Mamine est là, Marine est là. Donc, je devais avoir une oreille avec laquelle je suis venu au monde.
Ouais.
Et la logique a voulu... Aussi bien que j'ai mis la réglisse, je me suis lancé dans la réglisse sans problème et dans la musique d'une manière aussi naturelle et spontanée.
D'accord, ça c'est... vous êtes construit comme ça.
Oui, et bien sûr, il y a toute une avancée dans ce domaine.
Est-ce que vous avez une journée type ?
Écoutez, je suis un esclave volontaire.
D'accord.
Qui écrit. Ouais.
Un esclave volontaire qui écrit. Ok. Donc ça veut dire que votre journée type, c'est d'être au service de ça.
Oui.
Mais il n'y a pas de règles. Vous n'avez pas de rituel.
Non, non, non. J'ai heureusement une vie privée très, très privilégiée.
Ouais.
Depuis plus de 40 ans. Et c'est mon port d'attache auquel je tiens par-dessus tout, quand même.
D'accord. Ça, c'est important. Vous arrivez à préserver ça avec tout ce que vous avez à fournir professionnellement ?
Oui.
Vous avez réussi ça ?
Oui, parce que pour moi, c'est ce qui m'aide aussi à ne pas être un robot vis-à-vis de mes chansons, parfois.
D'accord. C'est pas toujours facile hein, de préserver ça quand on est un artiste et qu'on est dépendant des conditions extérieures.
Oui, mais en fait, je ne suis artiste que dans l'ombre, alors que c'est souvent plus difficile pour un artiste de renom, qui est adoré dans le meilleur des cas par tout un public et pendant pratiquement toute sa carrière. Et voilà, ça fait...
Bah du coup, quel regard vous avez sur la notoriété, justement ? Vous dites « je suis un artiste de l'ombre ».
Oui.
D'une certaine manière, c'est vrai. Enfin, dans le métier, vous êtes très reconnu.
Mmh.
Après, au niveau des médias, forcément moins qu'un interprète qui est exposé, on est d'accord. C'est quoi votre rapport à la notoriété ? Est-ce que vous en avez rêvé ? Est-ce que la vôtre vous convient ?
J'en ai rêvé. Mon intention était de chanter.
D'accord.
Oui. D'ailleurs, je joue de la guitare, je fais aussi des musiques depuis toujours.
Oui.
Et le fait d'avoir eu envie de chanter m'a certainement rapproché du ressenti de beaucoup d'interprètes pour me mettre à leur place.
Ah oui, ça compte beaucoup. C'est comme un réalisateur qui est comédien aussi.
Exactement. Donc, ouais. Je ne m'en suis pas servi, mais je m'en suis servi quand même de ce qui pourrait être un complexe. Quelque chose de non révélé, de non existant. Mais oui, ça m'a fait mettre, je pense, plus facilement à leur place, aux artistes.
D'accord. Et du coup, par rapport à la notoriété, comment vous vivez la vôtre ?
Vous savez, moi, je suis dans la rue, je suis un anonyme complet.
Oui.
Comment dire ?
Ça vous plaît, ça, par exemple ? D'avoir une grande carrière et quand même d'être anonyme, ou vous auriez aimé avoir plus de lumière sur vous ?
J'aurais aimé avoir plus de lumière sur moi si j'avais été interprète, si je m'étais montré et que les gens n'auraient pas aimé ce que je fais.
D'accord. Est-ce que vous avez un regret par rapport à ça, justement ? Est-ce que ça pourrait être un regret de ne pas avoir été l'interprète que vous vouliez être au départ ?
Non, pour la simple raison que je n'aurais jamais fait encore. Je ne serais plus dans le métier depuis longtemps. J'ai quand même plus de... un jeune homme de 84 ans.
Oui.
Voilà. Donc, il y a longtemps que...
Donc, ce n'est pas un regret ?
Non.
Est-ce que vous en avez un, un regret professionnel, peut-être quelque chose que vous vouliez faire et que vous n'avez pas fait, qui s'est pas passé comme prévu.
Je n'ai pas pris assez de temps pour moi.
D'accord.
Voilà. Et c'est devenu quelque chose comme une drogue, d'écrire.
D'accord.
Ouais.
C'est une jolie drogue, mais c'est une drogue quand même.
Ouais.
Est-ce que vous avez une obsession ou plusieurs obsessions dans le travail ?
Il me vient à l'esprit quelque chose qui ne répond pas à votre question.
C'est pas grave.
Mais qui est importante, je crois. J'ai fait beaucoup plus de chansons tristes que de chansons gaies.
Ouais.
Et peut-être que si je l'avais fait davantage. Mais j'étais attiré par justement par ce qu'il y avait de touchant dans une chanson, je considère comme emplie de larmes.
Ouais.
Et celle emplie de rire, j'aurais dû en faire davantage. Ça m'aurait fait du bien.
Mais ça ne s'est pas présenté comme ça. C'était peut-être pas votre sensibilité non plus.
Et pourtant, j'ai fait beaucoup de chansons très heureuses, ne serait-ce que pour Marie Laforêt, la première chanson que j'ai faite et qui l'a enfantée en tant qu'artiste, c'était les vendanges de l'amour.
Ouais.
Voilà. Et les chansons légères comme Lady, 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 Lady. Voilà. Moi, je préférais faire, par exemple, une chanson sur la séparation des Beatles. C'était dans les années 60. Et mes copains et moi, dans une édition musicale, nous étions désespérés d'apprendre cette nouvelle. Ça doit tourner autour de 60 comme année. Vous pourrez peut-être retrouver la date de leur séparation. Je revois Maxime Le Forestier entrer dans l'édition et dire « Ça y est, c'est confirmé, les Beatles arrêtent. » André Fugain, qui le suivait, qui ouvrait la porte, dit « J'ai écouté sur Luxembourg, sur partout, France Inter, Europe, ils se séparent. » Je suis rentré chez moi et j'ai eu besoin d'écrire quelque chose là-dessus, tellement j'étais touché. Et de travailler immédiatement pour ne pas que ce qui me touchait si fort se calme. Donc je suis rentré à la maison et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Il a neigé sur Yesterday ». Et ça a donné à Marie Laforêt ses galons d'artiste vraiment, vraiment reconnu, alors que les vendanges étaient seulement festives.
Ouais.
Et bienvenue aussi, mais voilà.
Est-ce qu'il y a des choses ou une chose qui vous ont manqué dans votre carrière?
Écoutez, quand je me retourne sur mon parcours, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment été gâté.
Est-ce qu'il y a un fantasme que vous avez eu, on peut dire d'ordre professionnel, une chose dont vous aviez rêvé et que vous avez accompli ou que vous n'avez pas accompli?
J'aurais jamais osé rêver aussi haut où je suis arrivé.
D'accord.
C'est-à-dire d'être chanté par Paul Anka, par Tom Jones, par Céline Dion, par Barbara Streisand, par Frank Sinatra. Comment voulez-vous dire « j'aimerais faire une chanson pour moi pour Frank Sinatra ».
Ça peut être un fantasme auquel on ne croit même pas, et puis bizarrement ça se réalise, ou des fois non.
C'est des choses qui vous arrivent, auxquelles on n'ose pas rêver, et on a bien raison.
D'accord. Est-ce qu'il y a une collaboration qui vous a plus marqué?
C'est ma rencontre avec Calogero.
D'accord.
Pour lequel j'ai écrit une chanson qui s'appelle
Si seulement je pouvais lui manquer.
Exactement.
Qui est magnifique.
Oui, c'est une chanson d'ailleurs co-écrite avec Julie Némé.
Et pourquoi elle a été plus marquante que les autres, celle-ci?
Parce que c'est mon histoire.
Ok. Vous êtes retrouvé dans cette chanson et dans cette
rencontre. Le manque du père.
Ok.
Qui, lorsque vous avez 15 ans, claque la porte, terminé.
C'est dur.
Oui.
Ok. Donc ça a provoqué quelque chose chez vous.
Ouais. Mmh.
Est-ce que vous vous sentez libre?
Non, je suis esclave de moi-même, de mon travail.
Est-ce que vous sentez dans votre travail, avec le temps, une forme d'usure, de lassitude?
De fatigue?
Oui.
Mais l'envie est là. Et elle se veut dominante.
C'est toujours elle qui a le dernier mot.
Malheureusement. C'est vrai.
C'est un problème.
Je rame contre ça parce que je ne sais pas prendre mon temps.
Vous vous considérez comme un saltimbanque?
Dans ma tête, oui, quand même. Oui,
ouais.
Oui, parce que Oui, parce que j'ai fait des rencontres qui me l'ont prouvé. Celle notamment avec Rulio. On s'est disputé et ça finissait toujours par des éclats de rire. Il s'était mis en tête, il voulait me montrer ses progrès en français. J'ai dit, mais ton accent, Hidalgo, c'est ça ta différence, c'est ça qui est toi. Alors il voulait me montrer au Saint-Jean le français, en étant au moment, et c'était absolument ridicule. Alors on s'engueulait à grave, et puis on voyait s'inquiéter le preneur de son, ses assistants, tout ça. Alors on devait avoir une complicité naturelle, c'était établi, parce que tout à coup on est parti à éclater de rire, à en pleurer, à se tenir le ventre, et j'ai compris que j'étais quand même resté un môme, un saltimbanque. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez eu à l'esprit une règle de conduite ou une valeur dans la vie qui vous a guidé pour avancer ?
J'ai eu besoin de fidélité, de travailler un artiste, de travailler avec un artiste et d'avancer avec lui dans son évolution, dans les chansons différentes. Ça, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est pour ça que beaucoup me sont restés fidèles.
Oui, c'était important pour vous de se construire ensemble, comme on dit,
oui.
D'avancer dans le temps.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose
Là, je voulais vous lire quelque
ah,
chose.
Ah oui, d'accord.
Si vous pouvez en tirer quelque chose, ça vous semble faire... Dites-moi. Ça fait un peu pour moi le tour de la question.
De laquelle question
De ma façon d'écrire sur une nouvelle musique
okay.
qui correspond. Après écoute d'une nouvelle musique qui correspond à mon ressenti et qu'on me propose de la paroler, avant d'écrire le premier mot, je dois tenir compte de son climat, de sa couleur, de sa respiration, tout en m'imprégnant de son langage apparemment abstrait. Son tempo est égal à son rythme de vie, à ses battements de cœur. C'est justement là où le mien est concerné.
C'est très beau. Est-ce qu'il y a, vous avez rencontré une ou plusieurs galères importantes dans votre carrière qu'il vous a fallu dépasser ?
Des gens qui ont joué avec moi à une apparente fidélité.
Oui.
Et qui, du jour au lendemain, ne m'ont plus jamais appelé. Alors que c'était établi, à mon avis, quelque chose de fort, où l'amitié pouvait avoir aussi, en plus d'une collaboration. Voilà.
C'est terrible.
Donc,
ça.
On revient à la même question ouais. tout à l'heure, c'est la trahison.
Ouais. Donc, ça, pour vous, ça a été des moments de. Ouais, de... terrible de difficulté quoi.
Oui,
ouais.
C'est tellement facile d'être plus expéditif, plus clair.
Si on vous proposait quelque chose de nouveau, vous diriez oui, et ce serait quoi ?
Je me suis jamais posé cette question.
Ah, c'est pour ça que je vous la pose.
Oui, je comprends.
Moi non plus.
C'est-à-dire que je suis tellement dans mon truc, sûrement un peu trop.
Ouais, on ne sait pas.
Voilà, je crois que la réponse est là, en fait. C'est qu'il doit y avoir une part d'exclusivité que je m'accorde, un égoïsme.
Si on imagine là qu'on est le 1er janvier et qu'il y a une résolution à prendre, laquelle vous prenez ?
1er janvier ?
Ouais, la résolution de début d'année, ce serait laquelle pour vous ?
Être raisonnable, nous calmer, accorder davantage de temps à ma vie privée, à ma femme.
D'accord. Est-ce que vous pourriez donner un conseil lié à votre expérience qui pourrait être entendu par un jeune auteur ?
Le conseiller de travailler de la manière la plus difficile, mais de la plus passionnante. Travailler sur des musiques.
En priorité.
En priorité absolue. Moi, je ne me considère pas du tout comme un auteur.
Alors que vous l'êtes quand même, du coup.
Oui.
Ouais. Et pas trop mauvais, en plus, quand vous le faites. Mais c'est votre amour de la musique qui vous fait dire ça, aussi. Ouais. Il est presque plus fort que celui des mots. Celui de la musique, finalement, chez vous. Et ma dernière question, si vous aviez la possibilité d'avoir un vœu qui se réalise, ce serait lequel ? Votre vœu le plus cher ?
C'est exactement ce que je vous ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire de me dire enfin raisonnable, de me calmer. De
donner... Alors ça, c'est encore plus qu'une résolution, ça. C'est carrément un vœu.
Un vœu qui m'est très cher, oui. Le vœu qui m'est très cher.
Ouais, ouais, ah oui, ouais. C'est à la fois la résolution et le vœu. C'est très très important du coup. Ok.
Ouais. Je vous ai tout dit.
Je vous remercie Michel de n'avoir pas été trop introverti finalement. Avoir été quand même extraverti pour moi.
Vous êtes arrivé à me mettre à l'aise. C'est certainement la raison pour laquelle j'étais exceptionnellement bavard.
Hein? Non mais ça me fait plaisir. C'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie infiniment. Pour votre confiance déjà, et puis pour votre envie, parce que vous aviez envie de faire aussi ce portrait avec moi, et c'est important pour moi que l'envie soit partagée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci.
D'être
merci
avec
Sandra.
Moi.
J'ai passé un moment intéressant, très intéressant avec vous.
Moi aussi, très très très, je suis très heureuse.
On n'en parle pas. Elle n'est pas célèbre, la seconde chèvre de Monsieur Seguin. On n'en parle pas. Dans la moindre fable, et c'est regrettable, et ce n'est pas bien, car bien plus que sa sœur, elle donnait du lait à toute la famille, à toute la vallée. Elle endormait le soir en bel entendrement, Monsieur Seguin, sa femme et leurs petits enfants. Mais on n'en parle pas. Et ça continue dans la folie du soir.
Il est 12h31, heure de confidence, et heure pour nous de sortir de la peau fiévreuse et délicate de Michel Jourdan. Merci d'avoir fait le voyage et à très bientôt pour le prochain.